Alors, bon matin à vous tous. Bienvenue à l'Oasis. Et comme Cheryl le disait, ce matin, on débute une nouvelle série, une série sur la prière visionnaire de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Donc, l'Alliance chrétienne et missionnaire, c'est la famille, le regroupement d'églises auquel on appartient. Et donc, on commence un processus ensemble qui va durer 7 semaines. Et donc, il y aura peut-être quelques messages qui seront en dehors de cette série-là, mais pour les 7 prochaines semaines, on va se pencher sur certains aspects de la prière visionnaire. Donc, vous devriez déjà avoir reçu dans votre boîte courriel hier soir un courriel avec un guide de méditation et de requête de prière quotidienne. Si vous ne l'avez pas reçu, ça signifie que je n'ai pas reçu votre mise à jour de vos informations personnelles avec votre consentement pour vous envoyer des courriels. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, laissez-moi savoir, envoyez-moi un petit message texte ou envoyez-moi un courriel, venez me voir après. Et puis, je vais m'assurer que vous puissiez le recevoir par courriel. Et si vous préférez pas l'avoir par courriel, eh bien, je vous l'achemine papier. Mais vraiment, on essaie de prioriser l'envoi courriel pour diminuer les impressions de papier. Donc, sans plus tarder, on va prier ensemble pour que Dieu dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole ce matin. Donc, courbons nos têtes, prions. Éternel, mon Dieu, tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui désire nous parler. Et ce matin, on veut dire, Seigneur, que nous aussi, on a envie d'entendre ta voix. On a envie d'entendre ce que tu veux nous dire à chacun d'entre nous à travers ce message-là. Merci pour ta parole qui nous parle collectivement, mais qui touche nos cœurs et nous parle également individuellement. Donc, rends-nous réceptifs, Seigneur, aide-nous à trier les pensées qui voudraient nous distraire pour vraiment demeurer concentrés sur ce que ton Saint-Esprit veut nous dire. Et nous prions ces choses dans le beau nom de Jésus. Amen. Ô Dieu, nous te désirons. C'est le titre de mon message et c'est aussi le début de notre prière visionnaire comme regroupement d'églises. Un début de prière qui peut-être, en certaines saisons de notre vie, est un peu visionnaire, en ce sens qu'on n'est pas toujours enflammé, n'est-ce pas? Vous avez peut-être déjà eu l'expérience de vraiment désirer quelque chose. Vous avez vu là, cette chose-là, vous l'avez regardée pendant des semaines dans les circulaires jusqu'à ce qu'elle vienne en rabais. Vous avez ramassé votre argent, vous l'avez acheté. Et après un certain temps, on n'a plus le même désir pour cette chose-là. Parfois, c'est comme ça aussi dans notre relation avec Dieu. On a des moments où vraiment on désire, on a soif de la présence de Dieu et d'autres moments où bof, j'ai pas vraiment envie de prier aujourd'hui. Ah, la Bible, il me semble que j'ai déjà lu ce passage-là. Pourquoi je le lirais encore? Et tout d'un coup, notre amour commence à se refroidir. Donc, on a inclus dans cette prière-là, « Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur » parce que c'est notre désir, en fait, comme chrétien, comme enfant de Dieu, comme membre de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire, c'est notre désir de garder un cœur brûlant en tout temps. Notre désir, c'est de désirer Dieu, d'avoir une relation personnelle avec lui et pas juste suivre un ensemble de règles et on peut dire « cocher, oui, aujourd'hui, hein, j'ai pas menti, ah, tiens, cocher aujourd'hui, j'ai aimé mon prochain. » La vie spirituelle avec Jésus, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça qu'on veut prier, pour garder un cœur ardent, un cœur qui désire aller plus loin dans une relation intime avec Jésus. Donc, je vais commencer ce matin en nous invitant à regarder cette prière visionnaire-là ensemble et peut-être même à la réciter avec moi. Donc, voici la prière. Elle dit « Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens nous transformer de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de se multiplier partout. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. » L'Alliance, c'est une tradition qui nous donne une direction. Donc, quand on parle d'un regroupement d'églises, vous le savez déjà, il y a plusieurs types de regroupements d'églises. Et, notre regroupement d'églises est basé sur une tradition. C'est-à-dire que comment on a débuté, notre histoire influence aussi dans quelle direction on s'en va. Et donc, au début, avant d'être un regroupement d'églises, l'Alliance était simplement un regroupement de gens qui provenaient de toutes sortes de traditions chrétiennes, de toutes sortes d'églises, et qui se rassemblaient ensemble, un peu comme les jeunes qui se rassemblent chez Tim. Ils ne vont pas nécessairement à l'église, à la même église le dimanche, mais ils ont le même désir pour avoir soif de Dieu et pour grandir dans leur marche avec Dieu, et donc, ils se rassemblent. Et c'était ça au début, quand c'est un groupe de chrétiens qui s'est formé, qui est éventuellement devenu un regroupement d'églises. C'était des chrétiens qui avaient à cœur, un mouvement qui avait à cœur de former des chrétiens qui dépassent une pratique religieuse ennuyante et basée sur des règles, mais qui va vraiment aller cultiver une relation profonde avec Jésus, une relation qui transforme en fait. Donc, une foi qui transforme qui je suis comme personne pour faire de moi une personne encore plus à l'image de Dieu, encore plus transformée par Dieu. Donc, on voit que cette relation-là, elle débute en fait généralement avec une soif. Une soif de la présence de Dieu et une soif de son intervention dans notre vie. Effectivement, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui débute en l'absence de soif. Généralement, quand je me lève et que je vais chercher un verre d'eau, c'est parce que j'ai soif. Généralement, quand j'achète quelque chose, c'est parce que je ressens un besoin de cette chose. Donc, généralement, dans la vie, notre ressenti de notre besoin nous pousse dans une action. Et donc, lorsque nous prions, « Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur », c'est un peu comme si on disait « Seigneur, moi, je veux avoir ce besoin-là de toi, ce besoin-là ardent de toi ». Alors, c'est une première étape. Dans l'Alliance, on parle de l'Évangile, de Christ qui est notre sauveur, de Christ notre sanctificateur, Christ, notre guérisseur, donc celui qui nous guérit, et de Christ, le roi qui revient. Et lorsqu'on parle d'avoir soif de Dieu, en fait, on parle d'avoir soif pas seulement d'un sauveur. Il y a des gens qui, peut-être vous avez déjà rencontré des gens comme ça, qui ont dit « Hey, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est vraiment le fun. » Mais on dirait qu'ils n'ont pas soif de Dieu, leur sanctificateur. Où on a des gens qui ont soif de Dieu, un guérisseur. « Je voudrais que Dieu fasse un miracle dans ma vie. » Mais ils ne sont pas tellement intéressés à faire de Jésus leur sauveur. On peut désirer Dieu en partie, mais lorsqu'on désire avoir soif de Dieu, une soif profonde de tout notre cœur, on désire tout ce que Dieu est. Et donc, ces choses-là nous aident, ou ces points-là centrales, nous aident à concevoir qui est Dieu pour nous comme chrétiens. On parle aussi de Jésus qui est le roi qui revient. Donc, ça veut dire que lorsqu'on désire Dieu de tout notre cœur, on désire plus que ce qu'on peut expérimenter de Dieu ici-bas dans cette vie. On désire plus qu'une église qui est engagée dans ce monde, mais on a soif que vraiment ce monde soit complètement transformé par le retour de Jésus. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. On a envie d'être comme les deux doigts de la main avec le Seigneur. On a envie d'être inséparables. Et désirer Dieu, c'est un essentiel dans notre marche avec lui. En fait, la parole de Dieu nous dit ceci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, qu'on pourrait aussi traduire comme toute ton énergie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Nous aura dit. Qui nous a dit ça? Qu'il y a quelqu'un qui le sait? C'est la réponse la plus facile au monde, c'est Jésus. C'est une citation de Jésus. Et il se passe quelque chose, comme les amoureux, on ne peut pas aimer sans désirer être dans la présence de l'autre, mais pas dans la présence de l'autre de n'importe quelle manière, la présence harmonieuse de l'autre. Et donc, lorsqu'on désire Dieu de tout son cœur, on désire être aussi en paix avec lui. On va aller plus loin dans la parole de Dieu ce matin et on va regarder deux passages extraits de deux psaumes pour nous permettre de voir comment la soif de Dieu, elle est importante. Premièrement, dans le psaume 103, on lit ceci. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasiée comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Et voilà maintenant qu'un autre psaume nous dit cela, « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec l'émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi est abattue mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et puis finalement, mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. Depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzar. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Alors, qu'est-ce qui arrive? On va regarder un peu ce texte-là. On va regarder qu'est-ce qui arrive quand je désire Dieu de tout mon cœur. Et en passant, ces deux psaumes-là ne sont pas écrits par David. L'un d'eux est écrit par David et l'autre est écrit par les fils de Corée. Et donc, on voit que ce n'est pas une expérience unique à une personne dans la Bible de désirer Dieu de tout son cœur, mais c'est une expérience qui est plus large que ça. Et donc, qu'est-ce qui arrive pour nous lorsqu'on désire Dieu de tout notre cœur? J'aimerais vous suggérer que ces psaumes-là nous indiquent une première chose. On pense souvent à Dieu, comme cette jeune fille-là ne peut s'empêcher de penser à ce beau jeune homme-là. Hein? En bon québécois, on dit que des fois, il y a des gens, ils le voient dans leur soupe. C'est-à-dire qu'ils pensent tellement qu'ils sont distraits tout le temps et ils imaginent la personne qu'ils aiment un peu partout. Hein? Eh bien, les psaumes nous disent ceci. « Je penserai à toi sur mon lit la nuit pendant que je méditerai. » Et donc, est-ce que ce n'est pas un amour passionnant de dire qu'à 3 heures du matin, à qui tu penses? C'est à Dieu. Tu réfléchis à sa parole. L'autre psaume nous dira, hein, c'est à toi que je pense, c'est à Dieu que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon. Donc, il dit, hey, moi, quand je suis loin là, du temple à cette époque, c'est comme si aujourd'hui on disait, hein, quand moi je suis loin de l'église, je pense à Dieu. Hein, je ne peux pas être là le dimanche, mais où j'ai manqué la réunion de prière, mais mes pensées sont fixées sur Dieu. On voit une autre chose qui se passe quand on désire Dieu de tout son cœur. Ici, on voit dans les psaumes que les psalmistes s'ennuient des moments agréables qu'ils ont eus avec le Seigneur. Est-ce que ça vous arrive à vous, hein, dans les saisons où votre âme semble plus sèche, où vous avez moins envie de Dieu, de dire... Oh, je m'ennuie là, de ce temps-là où je louais pendant des heures. Je m'ennuie de ce moment-là où j'ai vu Dieu répondre à mes prières. Je m'ennuie de ces bons moments-là avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes comme ce jeune homme-là? Hein? Il s'ennuie, il a envie de courir vers Dieu. Et le psalmiste dit ceci, « Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? J'ai tellement hâte! » Il dit, « Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et de reconnaissance. » Il s'ennuie de ce temps-là avec Dieu dans sa relation. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Il se passe que tout en moi désire être en relation avec lui. Et voici ce qu'on lit dans les psaumes. Hein? Il dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. » il ressent cette soif-là. Il y a quelque chose dans mon âme qui est pas en paix parce que j'ai soif de Dieu. Je veux voir plus. Et dans l'autre psaume, on voit ceci, hein? Mon Dieu, oh, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Et il va dire même, mon corps soupire après toi. Est-ce que dans vos maladies, dans vos souffrances physiques, vous désirez l'intervention de Dieu? Ou est-ce que vous vous êtes résigné? Ou est-ce que l'idée ne vous passe même pas en tête de prier? Oh Dieu, je te désire de tout mon cœur, de tout mon corps. Wow! Il se passe autre chose quand on désire Dieu de tout son cœur, comme cette dame qui a vu quelque chose passer. On est émerveillé par lui. Donc, on peut s'imaginer que cette dame-là, elle a vu son mari passer, puis elle a dit, « Wow! Cette chemise! Oh là là! » Comment on voit ça dans les psaumes? Le psalmiste va dire, « Je t'ai contemplé. » Il n'a pas juste pensé à Dieu, il a contemplé Dieu pour voir ta force et ta gloire. Il va dire, il est tellement émerveillé, « Mes lèvres célèbrent tes louanges! » Et il dira encore, avec des cris de joie, je te célébrerai. Lorsqu'on a désir Dieu, lorsqu'on a soif de lui, on se laisse émerveiller. On se met dans des positions où son âme apprend à se s'émerveiller à nouveau de Dieu. Je t'ai contemplé. Mais pourquoi, pourrions-nous dire, pourquoi un chrétien ne désirerait-il pas Dieu de tout son cœur? C'est une question que je me pose parfois dans les saisons où mon âme est plus sèche, où je n'ai pas tellement envie de lire ma Bible, où je n'ai pas envie de prier. On dirait que je n'ai juste pas le goût de rien. Pourquoi? Pourquoi mon âme a-t-elle pas soif de Dieu? Si je connais le Dieu qui a créé tout l'univers, si j'ai la joie d'être sauvée, d'être délivrée de la culpabilité, de la honte liée à mon péché, si j'ai l'assurance d'être dans sa présence pour l'éternité, si j'ai la joie de pouvoir participer à l'accomplissement de son œuvre ici-bas, pourquoi est-ce que je ne le désirerais pas plus de lui? Pourquoi est-ce que je le désire à moitié ou pas du tout? Pourquoi est-ce que mon cœur n'est pas pleinement enflammé? Eh bien, on va regarder un peu certains passages de l'Écriture qui nous donnent des indices. Et un de ces premiers indices-là, c'est le péché. Il y a un livre dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup, que peut-être vous connaissez, c'est l'histoire du prophète Osée. Alors, Osée est un prophète qui est envoyé envers Israël. Et puis, le peuple, à cette époque, a commencé à pratiquer l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à adorer toutes sortes d'autres dieux. Ils se sont mis à entrer dans toutes sortes de pratiques d'adoration qui étaient propres à ces dieux-là, dont, entre autres, la prostitution faisait partie. Et alors qu'Osée leur parle, il met en perspective l'amour infini de Dieu, le désir de Dieu de reconquérir leur cœur. Et qu'est-ce qui bloque ces gens-là? Et voici ce qu'il nous dira, entre autres choses. Il dira ceci par rapport au peuple. Leur agissement ne leur permet pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Parfois, c'est un peu comme ça dans notre vie. Il y a quelque chose dans ma vie qui bloque le désir ardent que j'ai pour Dieu. Et tant que mon désir sera porté vers le péché, bien, j'aurai de la difficulté à désirer Dieu de tout mon cœur. Osée nous parlera aussi d'autre chose. Il dira ceci. Il dira, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne le recherchent pas malgré tout cela. Et là, il parle des conséquences de leur péché. Ils ne sont pas capables de revenir à Dieu, même quand leurs péchés les font souffrir, même quand leurs péchés détruisent leur famille, leur nation. Ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur dur par l'orgueil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous brûler avec le péché? De vous rendre compte que ça ne fait pas du bien et de toujours vous entêter? parfois, ça nous arrive. C'est pas juste une affaire des gens qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Ça peut être quelque chose qui est propre à nous aussi, si on ne prend pas soin de notre cœur et de notre intimité avec Jésus. Et on va continuer ici. Il y a une autre chose, hein? Vous voyez cette petite fille-là, je ne sais pas si vous voyez, mais dans ses mains, elle a un jouet qu'elle tient et repousse de loin hein, quelqu'un d'autre. Eh bien, parfois, ce qui nous empêche de désirer Dieu de tout notre cœur, c'est un autre amour. Cette fille, petite fille-là, peut-être, elle aime tellement son jouet qu'elle n'est pas prête à en recevoir un autre. Hein, laisse-moi tranquille, j'ai déjà mon jouet. Une réaction d'enfant, peut-être, vous nous direz, mais nous aussi, des fois, on est des grands enfants. Osée, à nouveau, nous dira ceci. Il dira, les Israélites se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Et les gâteaux de raisin, c'est ce qu'ils offraient, entre autres choses, à leurs faux dieux. Donc, ils aimaient ça, gaspiller leur nourriture pour les offrir à des faux dieux. Jésus nous dira ceci, frères et sœurs, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Ce n'est pas possible pour nous de désirer Dieu de tout notre cœur et d'aimer d'autres choses autant que lui ou plus que lui. J'avais une discussion dernièrement avec quelqu'un qui considérait le ministère. Et là, regardez-vous pas entre vous, c'est pas quelqu'un de cette église. Et la personne me disait, « Ah ben moi, si on me donne pas tout de suite le gros salaire, c'est sûr que je laisse tomber tout de suite. » Et puis, en discutant avec cette personne, hein, je lui ai dit, « Ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu aimes plus que servir le Seigneur. Donc, je te recommande de même pas entrer, en fait, parce que ça a besoin d'être traité. » Et parfois, dans nos vies, il y a des choses qui ont des besoins d'être traitées. Parfois, ce n'est pas des mauvaises choses. C'est super d'avoir un bon salaire, une sécurité financière. Je désire ça pour tout le monde. Mais si c'est après ça que tu cours en premier, ben, tes yeux ne sont pas fixés sur Dieu. Bien sûr, fais des démarches pour avoir un bon emploi. Bien sûr, fais des études. Bien sûr. Mais ça ne doit pas être ton objectif final. Notre vie comme enfant de Dieu, hein, notre appel, c'est de demeurer accroché à la vigne, comme nous disait Jésus. Et ça nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est une image pour nous faire comprendre qu'il faut demeurer accroché à Jésus en tout temps. Eh bien, si ça, ce n'est pas votre focus, c'est sûr que vous allez décrocher à un moment donné. Parce qu'il y a plein d'autres belles choses qui sont en train de vous chanter la pomme, de vous faire la cour, de chercher à conquérir votre cœur. Et ça peut même être de très bonnes choses. Et finalement, il y a autre chose. Ce monsieur-là a l'air content, n'est-ce pas? Mais peut-être que l'une des raisons pourquoi il ne désire pas Dieu de tout son cœur, c'est la complaisance. Il se satisfait de qu'est-ce qu'il a. Osée nous dira à nouveau par rapport au peuple d'Israël, « Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. » Il n'y avait plus de désir de Dieu parce que tout allait bien. Connaissez-vous des gens qui sont des chrétiens de prière 911? La prière 911, c'est « on appelle Dieu juste quand il y a une urgence. » « Ah, Seigneur, je vais manquer d'argent! » Mais quand j'ai de l'argent, bof. Hein? Oh Seigneur, ça va vraiment pas bien dans ma relation avec cette personne-là. Vite, interviens, change son cœur. Mais quand ça va bien, bof. Parfois, comme enfant de Dieu, on est rassasié vite. On est rassasié vite et on demande peu de Dieu. En fait, Jacques nous dira ceci. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. Waouh, savez-vous ça? Il y a des gens qui sont tellement complaisants, qui ont même le désir de quelque chose de bon dans leur vie, mais ils sont tellement dans la complaisance qu'ils ne vont même pas persévérer dans la prière ou ils ne vont même pas le demander à Dieu. Savez-vous que la Bible, elle nous dit pas seulement, nous encourage pas seulement à prier, mais à persévérer dans la prière? Parfois, on se satisfait d'une petite prière courte. Ah, ben coudonc, Dieu ne voulait pas me répondre. Hein? Dieu nous invite à le chercher de tout notre cœur. Savez-vous que la joie que vous ressentez en ce moment dans votre relation avec Dieu, Dieu peut l'augmenter encore? Savez-vous que la passion que vous avez pour Dieu, Dieu peut vous rendre encore plus passionné? Demandez et vous recevrez. Dieu est là. Il veut répondre à la prière de votre cœur de le désirer plus. Dieu veut vous rencontrer, veut vous donner plus. Plus d'intimité avec lui, plus de connaissance de sa parole, plus de transformation dans votre être intérieur. Dieu veut le faire. Êtes-vous prêt à cogner? Êtes-vous prêt à persévérer? Maintenant, je vous ai parlé de certains obstacles. On va bouger un peu vers des solutions. Comment on fait, hein? Vous voyez ces deux doigts-là comparativement aux deux premiers doigts, ils ne sont pas de la même main. Ils ont été séparés, mais voilà qu'ils reviennent ensemble. Hein? Comment on fait dans notre relation avec Dieu pour refaire naître cet amour-là? Comment on fait pour cultiver notre passion pour Dieu? On va tous avoir des moments de sécheresse spirituelle ou de grande noirceur, appelez-le comme vous voulez, mais vous comprenez ce que je veux dire. On va tous passer par des moments comme ça. Quelles sont certaines des solutions que la parole de Dieu nous suggère? Je vais vous en donner quelques-unes. L'une d'entre elles, c'est le jeûne et la prière. Souvent, hein, dans la parole de Dieu, on est encouragé à aller dans le jeûne et la prière. Joël nous dira « Maintenant encore, hein, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Des fois, je veux revenir à Dieu de tout mon cœur, mais j'ai comme des résistances intérieures. J'ai comme besoin de vraiment mettre un temps à part pour le Seigneur. J'ai vraiment besoin de faire le point sur ma vie. Est-ce que, Seigneur, dans mon cœur, il y a un amour qui prend ta place, même si c'est bon? Est-ce qu'il y a des péchés dans ma vie, hein, que je tolère et que je ne suis pas prête à mettre de côté? Dieu, vous l'aurez entendu, est un gentleman. Il ne prendra pas la place dans votre cœur que vous avez déjà donnée à votre péché. Si vous voulez que cette place-là soit à Dieu, vous devez lui demander, hein, de vous aider à mettre de côté ce péché-là. Et vous devez choisir de prendre les moyens nécessaires pour le pousser en dehors de votre cœur. C'est vous le boss de votre propre cœur. Vous allez choisir qu'est-ce que vous laissez entrer et non. Donc, parfois, il faut prendre les grands moyens. Encore une fois, Chronique nous dira, « Si mon peuple s'humilie et prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai. » Y en a-t-il qui ont soif de voir Dieu répondre à leurs prières? Eh bien, parfois, il faut renoncer à certaines de nos mauvaises voies. Et parfois, on a besoin que le Saint-Esprit éclaire les choses dans notre cœur, parce qu'avec nos propres raisonnements, on n'est pas nécessairement capable de voir hein, qu'est-ce qui est une mauvaise voie. Hein, parfois, peut-être, hein, mon feu pour Dieu a diminué parce que, je ne sais pas, j'ai peut-être arrêté de partager ma foi avec des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et alors que je ne suis pas engagée là-dedans, que j'aime mieux rester dans le confort de mon chez-moi, j'aime mieux rester dans le confort de pas susciter des inconforts dans mes conversations avec les autres. Je vais mieux rester dans le confort puis qu'on me dise pas, ben moi je suis pas d'accord avec toi. Hey, c'est pas grave là si les gens ils sont pas rendus à l'endroit où tu es spirituellement. C'est pas grave si les gens ils sont pas encore prêts à recevoir Jésus. Ils ont leur propre cheminement. Mais est-ce que parfois on prend des chemins un peu égoïstes sans s'en rendre compte? Est-ce que parfois on se laisse contrôler par un esprit de peur plutôt que par le Saint-Esprit? Dieu veut écouter vos prières. Dieu veut cet amour-là passionné avec vous. Que faut-il faire pour refaire renaître l'amour? Eh bien, il faut être un petit peu comme cette petite fille-là avec ses grandes lunettes. Il faut cultiver les désirs d'en haut. Elle a tellement envie de voir le soleil. Est-ce que vous avez tellement envie de voir Dieu? La parole de Dieu utilise cette analogie-là des choses d'en haut. On va regarder les versets, je vous explique ensuite. La parole nous dit ceci en Colossiens, « Recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Elle nous dit également, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Ça veut dire quoi, se rechercher les choses d'en haut? Ça veut dire que mes yeux sont fixés sur les objectifs de Dieu. Hein, mes objectifs, ils sont spirituels, ils ne sont pas temporels, ils ne sont pas matériels. Mais mes yeux, ils sont fixés sur ce qui fait plaisir au cœur de Dieu. Je recherche ces choses-là premièrement. Et ça revient à mon exemple de tantôt. Hein. Qu'est-ce qui est sur le trône de ton cœur? Qu'est-ce qui est premier? Si tu as laissé la place, hein, la première place à quelque chose que Jésus, bien, surprends-toi pas si tu ne désires pas Dieu de tout ton cœur. Cultiver les désirs d'en haut. Apprendre à aimer plus qu'est-ce qui fait plaisir au cœur de Dieu. Et il y a autre chose qu'on voit. Vous voyez ce jeune homme-là qui creuse. Hein, il est à la recherche de trésors et il y a un petit diamant qui est là, juste devant lui. Voyez-vous, il n'y a pas un grand espace entre la fin de son tunnel et le diamant. Mais qu'est-ce qui va arriver s'il s'arrête à ce moment-ci? Il n'y aura pas son diamant, hein, il va avoir creusé en vain. Eh bien, parfois, on est comme ça dans notre relation avec Dieu. Ah oui, j'aimerais ça être passionnée de Dieu, là. J'aimerais ça retrouver mon intimité avec Jésus. Mais tu sais, j'ai prié pendant une journée ou deux, puis ça ne s'est pas passé. Fait coudonc, hein, je suis obligée de continuer comme ça. Parfois, il faut persévérer. Ce monsieur-là, c'est pas il est où le diamant? Mais il est prêt à continuer à creuser jusqu'à ce qu'il trouve. Êtes-vous prêt à persévérer dans votre marche avec Jésus jusqu'à ce que vous retrouviez le même passion que vous aviez auparavant? Êtes-vous prêt à persévérer pour conserver cette passion-là pour Jésus? La parole nous dit ceci, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec une attitude de reconnaissance. » En hébreu, on voit ceci aussi, « Oui, vous avez besoin de quoi? De persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et ainsi obtenir ce qu'il vous a promis. » Vous avez besoin de continuer à faire la même bonne chose que vous faisiez pour obtenir ce que Dieu vous a promis. Donc, mon désir, ce n'est pas que nous n'ayons pas soif, hein, comme on voit sur cette image-là, mais plutôt que nous ayons une soif augmentée. Et notre prière, essentiellement aujourd'hui, se résume à ceci. Seigneur, augmente notre soif. Saviez-vous, et là je pense que j'ai un médecin en presque complètement terminé avec sa résidence dans la salle, il existe des conditions en physique dans lesquelles on ne ressent pas sa soif. Et moi, en fait, j'étais dans j'ai travaillé avec des aînés aussi, hein, et une des choses qu'on devait faire avec les gens qui étaient aînés, qui avaient de la démence, c'est s'assurer qu'ils boivent, parce qu'ils n'étaient pas nécessairement toujours en mesure de soit ressentir leur soif, soit exprimer leur soif pour aller chercher ce dont ils avaient besoin. Et bien, moi, je crois qu'il y a une condition spirituelle qui est un peu la même chose, où on arrive à plus ressentir notre soif de Dieu. Dieu veut augmenter notre soif. Et c'est important qu'on soit vigilant dans notre vie pour remarquer quels sont les signes où peut-être hein, je suis en train de me déshydrater. Je ne ressens plus ma soif ou je ne suis plus en mesure d'aller chercher ce dont j'ai besoin hein, pour augmenter ma soif. Qui m'aidera à retrouver la soif dans ma vie? Comment est-ce que je vais pouvoir retrouver cette soif-là? Essentiellement, je crois que la parole de Dieu nous invite à boire. Et je crois que le privilège du chrétien, c'est d'être abreuvé spirituellement. C'est votre privilège hein, que votre âme soit abreuvée. Jésus dira ceci en Jean, il dira, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui. » Ce n'est pas une petite goutte comme on voit ce qui sort du robinet. Tu peux venir aujourd'hui dans ta relation avec Dieu et tu peux ouvrir le robinet divin et être abreuvé avec abondance. Dieu n'est pas limité. Moi, j'ai déjà entendu des gens, vous avez peut-être déjà entendu ça, « Ah, oh, mais tu sais, cette personne-là, elle est vraiment passionnée, mais tu sais, c'est pas pour moi. » Comme si Dieu allait abreuver un de ses enfants puis allait laisser l'autre se dessécher. Le robinet, il est là. Dieu veut augmenter ta soif. Dieu veut satisfaire ta soif. Est-ce que tu es prêt à ouvrir le robinet divin? Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit te remplir et devenir comme des fleuves d'eau vive qui coulent en toi? Dieu est prêt. Dieu est prêt pour toi. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre? On a besoin d'apprendre à reconnaître les signaux d'une absence de soif. Je ne pense pas souvent à Dieu. Oups! Il y a quelque chose qui ne se voit pas. Je ne m'ennuie pas d'avoir des bons moments avec Dieu. Je ne m'ennuie pas de ces moments-là où j'ai vu Dieu répondre à mes prières, où j'ai vu des gens se convertir. Je ne m'ennuie pas de ces moments-là où j'étais dans la louange. Oups! Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne désire pas de tout mon être en relation avec Dieu. Si j'ai le temps, je vais lire ma Bible. Mais juste si j'ai le temps, puis s'il n'y a pas rien de mieux à la télé. Oups! Je ne suis plus émerveillée par Dieu. Il n'y a plus rien qui me surprend. Je ne m'attends plus à des choses extraordinaires. Bof! Je l'ai déjà lu, ce passage biblique-là. Off! Le pasteur a déjà prêché sur ce sujet-là. Oups, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il nous faudra également identifier la cause de notre absence de soif. Et encore là, si je reviens à mon exemple au niveau de la santé, une personne ne peut pas ressentir sa soif pour différentes raisons. Donc, on veut un peu comme vous, peut-être que vous avez un problème de santé et là, vous avez tel symptôme. Et là, tout d'un coup, vous allez voir un médecin pour vous faire diagnostiquer, pour qu'on sache, c'est quoi exactement le problème? Eh bien, parfois, c'est la même chose. Quand on reconnaît le symptôme ou un des symptômes d'une absence de soif, de cœur qui désire Dieu, eh bien, peut-être qu'il faut identifier la cause. Est-ce que la cause, c'est que mon péché me bloque? Est-ce que j'ai honte de rentrer dans la présence de Dieu? Est-ce que j'aime tellement mon péché que j'ai plus soif de Dieu? Est-ce qu'il y a un autre amour, peut-être même quelque chose de bon, qui a pris la place de Dieu? Je parlais avec une autre personne il y a un certain temps et la personne me parlait de sa réalité. Et je lui ai dit, est-ce que tu vis pour Jésus ou tu vis pour ta retraite? Des fois, il y a des bonnes choses et c'est super le fun de planifier sa retraite. Je vous encourage à le faire. Mais est-ce que vous avez un autre amour qui prend plus de place que l'amour pour Dieu? Est-ce que peut-être la cause, c'est que vous êtes tombé dans la complaisance et vous vous satisfaisez de moins que ce que Dieu en réserve pour vous? Ça aussi, ça peut nous arriver. Il y a des gens qui en font même des théologies. Dieu ne peut pas rien faire de plus. Il faisait juste ces choses-là avant. Aujourd'hui, il ne veut plus. On peut spiritualiser notre absence de soif, mais Dieu a autre chose. Peut-être que vous avez déjà fait toutes ces choses-là. Peut-être ce matin, en entendant le message, déjà, il y a des choses dans votre vie que le Saint-Esprit a cogné à la porte de votre cœur et a fait comme « Ah, ah, tu vois, c'est ça pour toi. » Peut-être que ce sera plus tard durant la semaine, mais si c'est le cas, je vous invite à réfléchir à comment vous pouvez implanter une solution à votre absence de soif. Est-ce que vous avez besoin d'un temps de jeûne et de repentance? Avez-vous besoin de cultiver les désirs d'en haut? Où est-ce que vous avez besoin de persévérer dans votre recherche de Dieu à travers la prière, la louange, la lecture des Écritures ou toutes sortes d'autres moyens que le Saint-Esprit vous inspirera? Qu'est-ce qui est votre besoin aujourd'hui? Je vais nous inviter à prendre un moment de recueillement, un moment de prière, à dire « Saint-Esprit, parle-moi donc par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin. » S'il ne l'a pas déjà fait. Si vous sentez que le Saint-Esprit vous a déjà parlé, on va prier pour que le Saint-Esprit vous parle encore plus. Faisons ça ce matin avant de retourner vers la louange. Seigneur, je reconnais ce matin que j'ai la tendance à m'éloigner de toi. J'ai la tendance à laisser le Dieu que j'aime pour d'autres choses. Éternel, viens parler à mon cœur ce matin. Montre-moi quel est le prochain petit pas que tu veux que je fasse avec toi. Seigneur, si tu m'as déjà parlé ce matin, je te demande de me parler encore plus. Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Seigneur, je prends le temps de t'écouter. Je ne suis pas là pour une réponse rapide, mais je suis là pour passer du temps avec toi. Ô Dieu, je le déclare par la foi, je le déclare prophétiquement, je te désire de tout mon cœur. Seigneur, augmente ma soif. Fais que cette prière devienne réalité dans ma vie et que je puisse dire avec assurance et non pas seulement prier, ô Dieu, je te désire de tout mon cœur. Seigneur, je viens devant toi sans hypocrisie. Tu connais déjà tout de moi. Toi qui connais tout de moi et qui m'aime éperdument, qui m'aime sans restriction, viens, Seigneur, change mon cœur. Viens, Seigneur, aide-moi à vraiment faire de toi mon premier amour. Et c'est en ton nom que je prie, Jésus. Amen.